Pierre-Alain Muet, vous êtes là parce que vous êtes le local de l'État. Non, vous êtes député juste de l'autre côté de la rivière. Enfin, pas tout à fait seulement pour ça, puisque vous avez aussi été économiste à l'INSEE, à l'OFCE, auprès de Lionel Jospin quand il était à Matignon. Vous avez donc présidé le groupe de travail de l'Assemblée nationale qui a produit le rapport. Mesurer pour comprendre, vous connaissez ces questions-là par cœur, à la fois en tant qu'élu local, mais aussi en tant qu'économiste et statisticien. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec votre collègue?
Oui, c'est vrai qu'il est rare d'inviter un député UMP et un député du PS pour les entendre dire la même chose. C'est assez rare. C'est vrai qu'avec Hervé Mariton, on est plutôt invité pour débattre et donner des points de vue contradictoires sur les politiques.
Olivier, vous n'en sortez pas dans la salle.
Mais il semblait à l'ensemble de l'Assemblée que sur des sujets importants, où l'opinion avait le sentiment que les statistiques n'étaient pas fiables, eh bien l'Assemblée avait son mot à dire et que la meilleure façon de le faire, c'était de réunir une mission d'information, d'essayer de dégager un consensus. Et c'est vrai qu'il s'est dégagé tout au long des réunions qu'on a tenues. On l'a vu émerger progressivement sur la plupart des domaines que nous avons étudiés et naturellement aussi sur la gouvernance du système statistique, un sujet qu'on abordera. Mais il y avait deux problèmes qui se posaient, deux problèmes majeurs. L'un était celui qu'a décrit Jacky Fayolle, c'est-à-dire qu'il y avait une incompréhension complète sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Les statistiques de l'INSEE montraient, jusqu'à la période récente, que l'inflation était autour de 2%, et l'opinion, telle qu'elle ressortait des enquêtes de l'INSEE, conduisait à une inflation de 4%. En gros, depuis le passage à l'euro, les Français considèrent que l'inflation est deux fois plus forte que ce que donnait l'INSEE. Et naturellement, ça se traduisait sur le pouvoir d'achat. La plupart de nos concitoyens considéraient que le pouvoir d'achat avait baissé. Alors c'est vrai aujourd'hui, hein, depuis le début de l'année, en moyenne, il baisse. Donc aujourd'hui, l'inflation a presque rattrapé les chiffres qui n'existaient pas dans les statistiques avant. Et le pouvoir d'achat aussi, malheureusement. Mais à l'époque où nous avons commencé cette mission, ça n'était pas le cas, il y avait cette divergence. Le deuxième sujet, ce n'était pas un sujet de divergence entre la perception et la mesure, c'était que sur le chômage, qui est quand même un sujet majeur, où il y a en France, toujours comme dans tous les pays, deux mesures du chômage, la mesure de la NPE, c'est-à-dire la mesure des statistiques du chômage, des chômeurs inscrits à la NPE, et la mesure qui résulte d'une enquête, l'INSEE parle de l'enquête emploi, c'est ce qu'on appelle le chômage au sens du BITEC, qui est la seule mesure qui permet des comparaisons internationales. Il y avait des divergences totales. En 2005, le chômage au sens de la NPE baissait de 170 000, le chômage au sens du BIT augmentait de 115 000. Donc, il y avait vraiment un écart considérable que l'INSEE n'avait rarement connu dans le passé et qui a posé un véritable problème, puisque la tradition à l'INSEE, c'était de réconcilier les deux statistiques, ce qui est assez facile quand elles évoluent de la même façon, qui devient quasiment impossible quand les deux divergent à ce point. Donc il y avait un vrai problème et il était normal que nous, parlementaires, nous nous penchions sur ce sujet. Alors, qu'avons-nous dit? Bah, sur le pouvoir d'achat, je crois qu'il y a... J'en reviens à ce que disait Jean-Marc Victorin, les moyennes ne reflètent pas ou reflètent très mal la réalité. Parce que dans les années où le pouvoir d'achat en moyenne était stable, n'augmentait pratiquement pas, c'est-à-dire les années 2003-2005, quand on interrogeait les Français sur le pouvoir d'achat, ils le voyaient baisser. Mais quand on regardait le détail, on s'apercevait que par catégorie socio-professionnelle, évidemment, derrière la moyenne, il y avait la moitié des Français qui avaient une baisse de pouvoir d'achat et la moitié qui avait une hausse. Et donc la perception correspondait bien au fait qu'un grand nombre de nos concitoyens voyaient leur pouvoir d'achat baisser. Donc ce que nous avons dit dans le rapport, c'est qu'on ne peut pas se contenter des moyennes sur des mesures comme ça. Il faut aller plus finement, il faut publier des indices de pouvoir d'achat par catégorie socio-professionnelle ou par décile de revenus, parce que quand on le fait, on voit bien que des moyennes peuvent cacher des différences considérables. Sur le chômage, l'INSEE avait était arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas réconcilier deux statistiques qui n'étaient pas réconciliables, et Toutes les auditions que nous avons écoutées sur ce sujet nous ont conduit à la même conclusion. On a demandé à l'INSEE de faire un effort, ce qui suppose des moyens financiers d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Donc le gouvernement doit le faire aussi. Mais on a demandé à l'INSEE de faire un effort pour que la statistique du BIT, qui peut être publiée de façon mensuelle, qui à l'heure actuelle n'est publiée que de façon trimestrielle, devienne mensuelle. Parce que nos concitoyens ont besoin d'avoir une mesure qui traduit le taux de chômage qui est comparable à celle des autres pays. Et donc il y a un effort à faire pour avoir cette statistique à côté de celle de la NPE, dont on sait bien qu'elle est, elle reflète à la fois la réalité, mais aussi la façon dont cette réalité se traduit dans la politique de l'emploi. Et puis il y avait un troisième sujet qui à l'époque paraissait complètement exotique. J'avoue que j'ai beaucoup insisté pour l'ajouter. Mes collègues députés me demandaient « Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est d'actualité ?» C'était la mesure du produit intérieur brut. Non, pas la question de savoir comment on mesure. Ça me fait sourire quand j'entends une ministre dire 0,14. Moi qui ai été pendant une quinzaine d'années directeur, l'un des directeurs de l'Observatoire français de conjoncture économique, je me souviens qu'un premier chiffre de 0,1 ou 0,2, il est parfois corrigé en moins 0,1 ou moins 0,2 quelques années plus tard. Donc, il faut être prudent sur les chiffres. Où la correction se fait dans l'autre sens. On a vu des récessions qui apparaissaient dans les données provisoires, qui disparaissaient dans les données semi-définitives, et puis qui revenaient dans les données définitives. Mais c'est vrai que le commentaire politique, lui, il se fait sur la réalité, enfin sur la réalité, non, sur le premier chiffrage. Mais il y a un vrai sujet en matière de croissance du PIB, c'est qu'on a des concepts de produit intérieur brut qui remontent au fond à la pensée économique des années 30. La comptabilité nationale, elle a été pensée dans les années 30, elle a été mise en place dans les années 50-60, et vous vous souvenez peut-être qu'en France, dans les années 50, j'étais à l'INSEE à l'époque, dans les années, pardon, 60, 60-70, j'étais à l'INSEE à l'époque, en 70, oui, pas dans les années 50. Et à cette époque-là, on mesurait le PIB sans intégrer le PIB non marchand, c'est-à-dire on mesurait que le PIB marchand, donc c'est une mesure extrêmement étroite, puisque la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même que plus de la moitié du produit intérieur brut est non marchand. Donc on a changé, on a rajouté des concepts, et aujourd'hui, il me semble qu'il y a un concept fondamental à rajouter, et c'est une des pistes de réflexion que nous dressons dans le rapport, c'est qu'il faut prendre en compte un concept qui prenne en compte le développement durable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre produit intérieur brut, toutes les destructions que vous pouvez apporter à l'environnement, toutes les dépenses de réparation, comme disent les économistes, hein, quand vous détruisez une voiture, comme ça conduit à en produire une autre, eh bien, ça a un effet positif sur le PIB. On voit bien que ça n'a pas un effet positif sur le bonheur de nos concitoyens. Donc il faut effectivement qu'il y ait une réflexion qui se poursuive sur la question de prendre en compte le développement durable dans une mesure du produit intérieur brut, non pas en remettant en cause le précédent, mais comme on a su faire en rajoutant le PIB non marchand après le PIB marchand, en rajoutant un autre concept, et c'est une des pistes que nous développons dans ce rapport. Il y en a une autre sur la gouvernance, mais ce sera pour plus tard.
Effectivement. Merci Pierre-Alain. Je voudrais juste, sur les moyens qui m'étonnaient d'habitude, l'énergie que vous n'ayez pas évoquée, c'est-à-dire que l'une des difficultés sans doute, c'est qu'on a une réalité qui est elle-même de plus en plus éclatée. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y avait il y a 30, 40, 50 ans, dans les modes de vie, dans les types de... dans les modes de rémunération, dans les modes de consommation, dans les modes de vie, on a des réalités qui sont beaucoup plus éclatées aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans et qui sont donc beaucoup plus difficiles à saisir. Et donc tout ce qui est moyen est de moins en moins signifiant pour de moins en moins de gens. Alors, on va donc faire un petit focus maintenant sur deux points. On va commencer très vite sur le PIB, pas sa définition au sens large, mais plutôt sur ses fluctuations de court terme. Vous en avez déjà dit un mot, Jacques. Est-ce que vous voulez bien creuser un peu ?
Oui. Sur la question du PIB, enfin, en général, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau conjoncturel, il y a deux grands problèmes qui se posent, le problème des révisions des données et du bruit. Je ne vais pas parler quand même de la question du PIB, comme on vient de l'évoquer là, parce que c'est trop complexe, mais deux questions quand même qui sont assez fondamentales aujourd'hui dans ce que j'appellerais le décryptage, parce que finalement les indicateurs économiques servent à décrypter la réalité. Décrypter la réalité, essayer d'enlever tout ce qui nous empêche de comprendre les évolutions profondes. Alors premièrement, les révisions. On l'a évoqué tout à l'heure, Alors les révisions, il y a de plus en plus de travaux qui se font sur la notion de révision, notamment au niveau d'Eurostat. On voit de plus en plus de papiers qui sont écrits par des théoriciens sur cette question. Et la constitution de bases de données qu'on appelle des millésimes ou des vintage en anglais, qui sont des bases de données donc rétrospectives des données telles qu'elles ont été publiées, parce que toutes les études statistiques ou économétriques qui sont faites sont obligées de valider les instruments à partir des données réelles telles qu'elles sont publiées. Donc là, il y a toute une réflexion qui est faite sur cette question, parce qu'on a compris que les révisions, c'était vraiment un problème. Alors, les révisions, c'est pas que la donnée soit approximative qui est important finalement, parce que ce qui va jouer sur le marché, c'est l'écart entre ce qui va être publié et ce qui avait été prévu, parce que finalement, toutes les données qui sont publiées sont prévues. Vous allez sur tous les sites internet, dans tous les journaux des grandes banques, vous verrez des prévisions sur tout ce qui va être publié. Et en fait, c'est quand il y a un écart entre ce qui a été prévu en moyenne dans le consensus et ce qui est publié, qu'il va se passer quelque chose peut-être sur le marché. Parce que là, on n'a pas parlé des marchés, mais effectivement, les marchés sont extrêmement friands en information de court terme. Alors, la question importante, est-ce qu'il y a des biais dans les révisions ? Fabrice disait qu'il y a... Normalement, il ne doit pas y avoir de biais, parce que s'il y avait un biais, on l'utiliserait pour corriger la révision. En fait, c'est pas sûr qu'on s'est aperçu qu'il y avait même des biais. Alors, au Royaume-Uni, la croissance trimestrielle est toujours sous-estimée. On s'est aperçu qu'il y avait un biais, personne ne tenait compte vraiment. Alors, le problème peut-être des révisions, les révisions font partie de la nature, tout le monde le sait, on vit dans un monde changeant, et bien on essaie de les minimiser, mais elles ne disparaîtront jamais. Par contre, ça pose peut-être un problème de communication. Il faut être très prudent quand on communique, bien simplement dire qu'il y a un intervalle de confiance dans les données, qu'elles sont révisées. Ce qui est plus troublant, c'est les révisions ex post sur l'année dernière ou sur il y a 5 ans, 10 ans. Ça, c'est quand même assez affolant. Parfois, on révise dramatiquement les données il y a 5 ans et tout le monde, je dirais, régulièrement s'en fout, parce qu'il y a 5 ans, finalement, ça ne concerne plus personne. Mais si on devait refaire une analyse économique de ce qui s'est passé il y a 5 ou 10 ans, on serait surpris. Du décalage qu'il y a entre ce qu'on disait à l'époque et ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Alors, deux mots sur les origines des révisions. Il y a deux types de révisions, sur le PIB essentiellement. C'est les révisions de court terme, comme disait Fabrice, c'est tout ce qui est dû au fait qu'on a des informations partielles. Et plus on produit vite, plus les informations seront partielles. Je dois dire qu'il y a une course à la production aujourd'hui. Eurostat a imposé à l'INSEE, comme à d'autres statistiques, de produire de plus en plus vite pour rattraper les États-Unis, par exemple en termes de PIB. C'est vrai qu'aujourd'hui on produit beaucoup plus vite qu'avant, mais il n'est pas du tout sûr qu'on ait perdu en précision. Je ne suis pas du tout convaincu. Apparemment, il y aurait un arbitrage, c'est-à-dire plus on produit vite et plus c'est imprécis, mais ce n'est pas du tout sûr. Ça reste à prouver. En tout cas, il y a des aspects techniques qui expliquent ces révisions de court terme. Et ce que je disais tout à l'heure, les révisions de rétrospective à 1 an, 2 ans, 3 ans sont beaucoup plus importantes. Parce que parfois, on fait des avancées méthodologiques. Par exemple, en termes de PIB, on est passé au point de chaîner. Ça a pu avoir quelques incidences au niveau de certains secteurs d'activité. On le voit. Voilà pour la question de la révision. Bon, il faut savoir que les données sont révisées. La deuxième question, qui est beaucoup plus grave, c'est le bruit. Ça, je voudrais quand même dire un mot rapide. Le bruit. Parce que, et ça concerne le PIB. Voilà, le PIB a été publié à 0,14. On sait très bien qu'il y a une part de bruit quand on regarde le PIB trimestriel, surtout en Allemagne, d'un trimestre à un autre, eh bien, il y a une volatilité qui est due au fait que les sociétés forcément subissent un certain nombre d'influences climatiques ou autres qui font qu'il y a une volatilité intrinsèque. Et donc l'idée, c'est quand même d'essayer de se débarrasser de ce bruit. Bon, alors il ne faut pas critiquer l'INSEE. L'INSEE publie l'information telle qu'elle est disponible, et ça, c'est, je l'appellerais, c'est de l'information économique. C'est là que je vous ferai la différence entre information économique et indicateur. Par contre, il est bon que sur le marché, il existe des indicateurs qui essayent de mesurer la croissance sous-jacente. Et pourquoi pas plusieurs indicateurs. On reviendra peut-être sur cette question de la démocratie aujourd'hui. Je pense que c'est important que dans beaucoup d'autres, dans ce domaine-là en particulier, il y ait une production multiple d'indicateurs et que le marché, finalement, choisisse les meilleurs et qu'il y ait sainement une approximation de plus en plus grande par rapport à ce qui se passe. Bon, je m'arrête là.
Merci Jacques. Donc, Fabrice Jacques parlait donc de production multiple, disait que finalement il n'y avait peut-être pas de combat entre la rapidité des chiffres qui est de plus en plus souvent demandé, à la fois par certains organismes internationaux, mais aussi par le grand public, et puis la volonté des statisticiens de publier des chiffres avec plus d'informations et donc plus sûrs. Comment est-ce que vous vous situez dans ce débat, et comment se situe la France par rapport aux autres en matière d'avis?
Alors, je ne suis pas tout à fait du même avis que Jacques. Je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver entre la rapidité avec laquelle on peut sortir une première estimation et sa qualité. Pour expliquer ça, il y a deux façons d'expliquer. Je peux donner des exemples. Aux États-Unis, la pratique, c'est de publier, les chiffres trimestriels sont publiés trois fois. Les États-Unis publient une estimation du PIB un mois après la fin du trimestre, deux mois après la fin du trimestre, trois mois après la fin du trimestre. S'agissant du deuxième trimestre américain, le 31 juillet 2008, donc un mois après la fin du deuxième trimestre, l'Institut statistique américain a publié une croissance de plus 0,5%. Un mois après, il a annoncé plus 0,8%. Je vous demande si, en France, on accepterait, à un mois d'intervalle, que l'INSEE révise la croissance de 0,5 à 0,8. C'est une question que je pose. Et un mois après, la croissance a été révisée à plus 0,7. Premier exemple. En France, comme dans la plupart des pays européens, nous sommes calés, nous avons fait des progrès effectivement en termes de parution. Aujourd'hui, l'INSEE publie des estimations du PIB trimestriel 45 jours après la fin du trimestre, c'est-à-dire à peu près 15 jours après les chiffres américains. Et puis une deuxième estimation, 3 mois après la fin du trimestre, c'est-à-dire à la fin du trimestre suivant. Et la plupart des pays européens font comme ça. Eurostat et la Banque Centrale Européenne poussent très fort pour que les pays européens s'alignent sur le modèle américain. Et donc poussent à ce qu'il y ait une première estimation du chiffre de croissance trimestrielle qui soit publiée un mois après la fin du trimestre. On est dans un dialogue de techniciens avec nos interlocuteurs au niveau européen. Et notre propos, c'est de dire, étudions la chose, pourquoi pas, mais il faut absolument faire des tests avant. Parce qu'on est à peu près persuadé que si on doit avancer de 15 jours l'estimation du PIB, on va perdre en précision. Et là, il faut expliquer pourquoi. En France, lorsque vous devez estimer la première estimation de la croissance en France, les comptes trimestriels, en fait, ils utilisent à leur disposition deux choses. D'une part, ils ont à leur disposition des indicateurs infra-annuels, mais qui sont très parcellaires. Ce sont des enquêtes. Par exemple, exemple très connu, l'indice de la production industrielle. Qu'est-ce que c'est que l'indice de la production industrielle qui est fait par l'INSEE? C'est une enquête auprès de 2000 entreprises, mettons, qui suit mois après mois l'évolution de leur production, et à l'aide de ça, on construit un indice de la production industrielle. 2000 entreprises. En France, il y en a 2,5 millions. D'accord? Donc nécessairement, cet indice de la production industrielle, il donne une information très utile, parce qu'elle est produite tous les mois et elle est rapidement disponible, mais néanmoins, elle est forcément parcellaire. Donc, les comptes trimestriels, qu'est-ce qu'ils font pour estimer la production industrielle, par exemple? Eh bien, ils utilisent les chiffres annuels du passé, construits par les comptes nationaux annuels, cette fois-ci, au vu d'une information statistique beaucoup plus importante, en l'occurrence sur les entreprises totalement exhaustives, et ils relient cet indicateur, en établissant un modèle économétrique, entre l'indice de la production industrielle et, sur le passé, le vrai chiffre. Et du coup, ce modèle va servir à extrapoler une première estimation de la production industrielle trimestrielle. Pourquoi est-ce qu'on publie une estimation, enfin, une des raisons pour lesquelles on publie une toute première estimation du PIB 45 jours après la fin du trimestre? Parce que ça permet d'intégrer les 3 mois de l'indice de la production industrielle dans ce calcul. Si vous voulez passer 15 jours avant, vous n'avez plus que les 2 premiers mois. C'est-à-dire que vous manquez le dernier mois de production industrielle du trimestre. Il faut l'inventer. C'est d'ailleurs ce que font les Américains. Les Américains, lorsqu'ils sortent un chiffre un mois après la fin du trimestre, sur beaucoup de statistiques qu'ils utilisent, ils inventent le dernier mois. C'est pour ça que c'est fortement révisé. Bon. Donc il faut savoir. La question n'est pas de savoir si. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de le faire, mais néanmoins, il y a un équilibre à trouver.
Quel est l'intérêt de le faire?
J'ai un point de vue très personnel et sans doute partiel là-dessus. Mon point de vue, c'est qu'il faut s'aligner sur les Américains. Comme les Américains le font, c'est magnifique. Voilà. Et pourquoi les Américains le font? C'est leur pratique, et parce qu'ils ont une culture du chiffre qui est plus importante. Et alors là-dessus, je pense qu'on a des progrès à faire, et on pourrait s'inspirer d'eux. Si vous allez voir sur le site du BEA, du Bureau of Economic Analysis, lorsqu'il publie un chiffre américain, non seulement il publie un chiffre, mais à la fin, il y a toute une série de statistiques qui vous disent, en moyenne, comment ce chiffre sera révisé. C'est pas ce qu'on fait en France aujourd'hui. Moi, je fais une proposition. C'est pas moi de décider, c'est le directeur général qui décidera. Mais on pourrait faire ça aussi. C'est-à-dire, on pourrait publier que la croissance du troisième trimestre a été de plus 0,1, mais également indiquer au public qu'en moyenne, ce chiffre sera révisé d'environ 0,2 points d'ici un an, à la hausse ou à la baisse. Parce que c'est ce qu'on observe, tout simplement. Et effectivement, de ce point de vue-là, je pense que l'INSEE aurait à gagner, ne serait-ce que. Et je pense que cet effort, qui à la fois montrerait au public que les chiffres ne sont pas connus avec l'exactitude qu'on peut le croire, donc on pourrait croire que ça amoindrirait la qualité de l'institut, mais d'une certaine façon, je pense que sur le long terme, ça peut au contraire nous aider. Bon, c'est un point de vue très personnel, mais encore une fois, c'est pas moi qui peut décider de ça.
Je crois que la dimension culturelle que vous évoquiez était très importante. Je me rappelle d'un témoignage d'Enrico Giovannini, qui est le chief statistical officer de l'OCDE. Une fois, il est arrivé aux États-Unis, donc à la douane, à l'état civil, enfin, le contrôle des passeports. On lui demande quel est votre métier. Et il dit, je suis chief statistical officer, donc officier statistique en chef de l'OCDE. Et là, il a senti chez son interlocuteur une révérence. Une révérence parce que c'était un homme du chiffre, à un niveau important. Il dit, j'ai jamais senti ça en Europe. Voilà, on m'a demandé des centaines de fois ma profession en Europe, quand je disais chef statisticien, jamais on m'a dit que c'était important. Aux États-Unis, le gars de l'état civil, pour lui, c'est un métier très important que de faire ça. Il y a des différences culturelles tout à fait importantes. Alors, on va passer,
si je peux me permettre, juste en deux minutes pour terminer. Donc cette première estimation, elle est forcément partielle, et ensuite, c'est là où je peux bien expliquer pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre le premier chiffre et le chiffre directement stabilisé. Je vous ai dit que, in fine, la croissance en France, par exemple, la valeur ajoutée des entreprises, elle sera connue. Simplement, il faut collecter pour ça l'ensemble des comptes de toutes les entreprises présidentes en France, et il faut les croiser avec des données fiscales. Et ça, c'est un travail statisticien énorme qui prend beaucoup de temps. Et c'est la raison pour laquelle, je vais vous donner un exemple concret, la croissance définitive du PIB français pour l'année 2006 ne sera publiée qu'en mai 2009. Vous voyez qu'il y a beaucoup de temps nécessaire pour arriver à stabiliser un chiffre, tout simplement parce que tant que l'ensemble de l'information statistique n'est pas disponible, nous avons le droit de réviser ce chiffre, ce qui paraît normal.
Une toute petite précision de nos deux députés pour qu'on passe vite au deuxième exemple.
Juste une question aux statisticiens. Ce qui me paraît important, c'est quand les instituts de statistiques se réunissent pour avoir des règles communes. Et la date de publication et les méthodes de publication, ça me paraît fondamental. Parce que la croissance du trimestre, elle est attendue par tout le monde. Hein, la croissance du dernier trimestre. Et il serait souhaitable qu'elle soit élaborée de la même façon dans tous les pays et publiée pratiquement le même jour, ce qui se fait à peu près partout en Europe, un jour près.
C'est ce qui est le cas maintenant.
Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la situation d'un pays en ayant le contexte européen, mondial. Donc là-dessus, ce qui serait souhaitable, c'est que tout le monde ait la même méthode. Et moi, peut-être parce que j'ai le biais d'un statisticien, je pense qu'il vaut mieux publier des statistiques qui soient des statistiques et pas des prévisions, même si je sais bien que dans les faits, il y a une vraie continuité entre la prévision et les statistiques, parce que la prévision, plus on s'approche du trimestre en cours, plus la prévision, elle repose sur des données qu'on commence à connaître.
Deux observations rapides sur la méthode de publication. Nous le disons d'ailleurs dans le rapport, il y a manifestement des progrès à faire, à la fois sur l'incertitude et les conditions de prévision. Faut-il encore une fois que cela serait fait, que les journalistes en fassent quelque chose ? Il peut y avoir la tentation de l'interprétation unique, parce que parfois on a besoin d'un chiffre unique. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas uniquement de l'ordre de l'élément de connaissance. Les problèmes de révision de la croissance posent des difficultés sérieuses en termes de finances locales, parce que les engagements de l'État à l'égard des collectivités locales se font avec un certain nombre de paramètres liés à l'évolution du PIB, et on se trouve confronté à des révisions de très grande ampleur du fait des révisions de chiffres du PIB. Donc le débat n'est pas simplement un débat d'information économique et de prévision, c'est aussi un débat de gestion. Le comité des finances locales est confronté là-dessus à des difficultés opérationnelles très importantes.
Cette année, comme les dotations aux collectivités locales ne sont plus indexées sur la croissance, le problème ne se pose plus. Moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent.
Voilà, on a résolu le problème.
Bon.
Merci Thérèse.
Un problème de résolu. On va donc passer au suivant, qui est donc la question du pouvoir d'achat, qui est une question plus grand public dans le sondage qui a été révélé ce matin, quand on demandait aux Français quels étaient le domaine sur lequel ils aimeraient avoir plus d'informations, en matière économique, le pouvoir d'achat venait au premier plan. Alors, le pouvoir d'achat, c'est une mesure qui a été extraordinairement discutée ces dernières années. Il y a eu des rapports, plusieurs rapports tout à fait instructifs et enrichissants. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment est-ce que vous sentez la situation, Fabrice?
C'est une très vaste question. J'ai prévu d'aborder en fait en faisant un petit retour en arrière, raconter un petit peu les épisodes que j'ai pu connaître ces dernières années. Donc l'INSEE s'est retrouvé dans une situation assez curieuse, c'est-à-dire que durant la campagne présidentielle de 2007, les deux candidats principaux, je crois, ont tous les deux déclaré que le pouvoir d'achat baissait en France. Et c'était précisément au moment où les premières indications, pas encore toute l'année à l'époque, les premières indications pointaient plutôt vers une accélération du pouvoir d'achat. Non seulement il augmentait, mais il avait tendance à augmenter plus vite qu'en 2006. Le chiffre actuel du pouvoir d'achat sur l'année 2007, qui est donc un chiffre provisoire, et qui sera encore révisé durant 2 ans, pour les raisons que je vous ai expliquées, pointe sur une augmentation, après on va venir sur ce que ça signifie, sur une augmentation de 3,3% du pouvoir d'achat des ménages en France en 2007, c'est-à-dire une augmentation très forte, puisque sur longue période, ce pouvoir d'achat des ménages augmente environ de 2%, et que cette augmentation de 3,3%, il fallait remonter à 5 ans en arrière avant de trouver une augmentation si forte. Donc précisément au moment où le débat se polarisait sur la baisse du pouvoir d'achat, l'IGI de l'INSEE disait, et continue à dire, l'inverse. Sur 2008, l'année n'est pas terminée, néanmoins, là je me réfère plutôt aux prévisions conjoncturelles, parce que l'INSEE fait aussi des prévisions conjoncturelles. La dernière prévision publiée date du mois d'octobre, et les conjoncturistes, c'est pas moi, je ne suis pas prévisionniste, moi je suis statisticien dans l'histoire, comme si dans le passé j'ai aussi été prévisionniste. Les dernières prévisions, c'est plus 0,07, c'est-à-dire un chiffre de pouvoir d'achat des ménages, de l'ensemble des ménages, plus 0,07. Alors, dans les comptes. Alors, là, il s'agit d'une prévision annuelle. Et ensuite, c'est une moyenne annuelle. Mais dans les comptes trimestriels, sur les premiers trimestres de l'année 2008, il est exact que les chiffres font état d'une diminution. Donc, autrement dit, on pourrait dire, d'une certaine façon, que le ressenti public et le discours des politiques est exact, mais à un emprunt. Aujourd'hui, effectivement, le pouvoir d'achat, disons, est très mal orienté sur les 2008 et certainement pas sur les 2007. Alors maintenant, il faut savoir de quoi on parle, d'une part, et ensuite, comme je l'ai dit dans l'introduction, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre ce que peut mesurer l'INSEE et le ressenti. Parce que, à mon avis, la vraie question, elle est quand même là. Alors de quoi on parle, en deux mots? Le pouvoir d'achat du revenu des ménages, d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle le revenu des ménages. Le revenu des ménages, c'est l'ensemble des revenus perçus par les ménages, c'est-à-dire d'une part les revenus d'activité, les salaires que les salariés reçoivent, ou bien les bénéfices des entrepreneurs individuels, auxquels on additionne toutes les prestations sociales que les ménages reçoivent, c'est-à-dire les indemnités chômage, c'est-à-dire les allocations familiales, c'est-à-dire les retraites, évidemment, qui sont payées, auxquels on ajoute ce qu'on appelle les revenus de la propriété, c'est-à-dire les loyers perçus par les ménages locataires, c'est-à-dire les dividendes et les intérêts qui sont perçus par les ménages qui possèdent des SICAV, des actions, et auxquelles on enlève les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire, pour faire simple, l'impôt sur le revenu, les contributions et les cotisations sociales. Je fais ça très simple. Vous voyez, c'est ce qui reste sur un an dans la poche des ménages, et ce revenu des ménages sert aux ménages soit à consommer, soit à épargner. C'est ça le revenu des ménages. Et le revenu des ménages, pour vous donner un ordre d'idée, c'est les 2/3 du PIB sur une année. C'est facile à retenir. 2/3, donc à peu près 1 200 milliards. Un ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du revenu des ménages? C'est l'évolution de ce revenu d'une période à l'autre, d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre, une fois tenu compte de l'inflation, c'est-à-dire de la progression des prix. C'est-à-dire on déflate cette évolution du revenu par, évidemment, entre 2 années, également les prix augmentent. Donc on tient compte, on enlève l'inflation. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'achat du revenu des ménages. Et c'est ça qui, selon la comptabilité nationale, a fortement augmenté en 2007 et aujourd'hui a très fortement par l'entrée. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi il y a un tel gap? Je vais tenter juste de lister un certain nombre de pistes. La première, c'est qu'en général, il me semble que lorsqu'on interroge les Français, les personnes qui leur demandent l'évolution du pouvoir d'achat, la première chose à laquelle les Français pensent, c'est prix. Comment évoluent les prix? Or, je rappelle que le pouvoir d'achat, c'est l'évolution des prix, mais aussi l'évolution des revenus en face. Et donc, même si les prix augmentent, si les revenus augmentent plus vite, le pouvoir d'achat ne baisse pas. Et il me semble quand même qu'il y a un tropisme individuel à penser d'abord l'évolution des prix. Deuxième raison, et là je pense qu'il y a vraiment un effort pédagogique à faire et qui a été en partie fait, enfin j'espère, allez voir le site de l'INSEE, de ce point de vue-là, on a essayé d'innover ces derniers mois. Il s'agit d'une évolution du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages français, c'est-à-dire de l'évolution de l'ensemble des revenus reçus par les Français. Quand quelqu'un reçoit cette information, il compare à sa propre situation. Et évidemment, il y a quand même un écart immédiat et conceptuel évident, c'est que l'ensemble des ménages français tend à croître au cours du temps. Parce que tout bêtement, la population française croît au cours du temps, et le nombre de ménages croît au cours du temps. Donc quand bien même un ménage donné, et tous les ménages français recevraient le même niveau de revenu d'une année sur l'autre, si vous avez plus de ménages, l'INSEE va annoncer que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Parce qu'il y a plus de ménages. C'est une variable macroéconomique. Donc de ce point de vue-là, si on veut se ramener à une perception individuelle, là l'INSEE a un rôle à jouer, et à dire, il ne faut pas calculer un pouvoir d'achat, seulement calculer un pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages, il faut calculer un pouvoir d'achat ramené à un niveau individuel, c'est-à-dire tenir compte de l'évolution de la population. Et du coup, l'INSEE essaye de vendre le plus possible, maintenant, deux chiffres. D'une part, l'évolution du pouvoir d'achat du revenu des ménages, celui dont on parlait, mais également le même, déflatté par ce qu'on appelle le nombre d'unités de consommation, c'est-à-dire par l'évolution du nombre de ménages, mais tenu compte de la déformation de la structure des ménages. Pour faire simple, il y a des économies d'échelle. Quand vous êtes un couple avec deux enfants, vous ne pouvez pas dire que votre revenu doit être divisé par 4, ni non plus que vous devez considérer que ce revenu équivaut en niveau à un revenu d'un couple sans enfant. Donc on divise en fait par la taille du ménage, mais en tenant compte, en sous-pondérant, pour faire simple, les enfants et la deuxième personne. Parce qu'il y a des économies d'échelle. Quand vous êtes un ménage et que vous êtes nombreux, vous avez besoin d'un seul logement ou d'un seul foyer. Donc l'idée, c'est de dire, si vous voulez ramener ça à une perception individuelle, il faut enlever à cette valeur du pouvoir d'achat des ménages l'évolution du nombre d'unités de consommation. Et ça, c'est assez simple parce que c'est très lisse dans le temps. C'est à peu près 0,9% par an. Donc, si je dis qu'en 2007, le pouvoir d'achat des ménages a progressé de 3,3, ça veut dire que, ramené à un niveau individuel moyen, il a progressé de 2,4. Est-ce que c'est beaucoup? La réponse est oui, c'est toujours beaucoup. Parce que sur long terme, c'est à peu près 1%. Et là, c'est 2,4, donc c'est beaucoup. Et sur 2008, je vous ai dit que la prévision c'était 0,7, j'enlève 0,9, ça fait moins 0,2. Et effectivement, ramener à un niveau individuel moyen, c'est une légère baisse. Compte tenu de la précision des chiffres, je dirais que c'est 0. Bon. Je termine très rapidement. Troisième élément, à mon avis, qui explique ce décalage, il y a vraiment un problème entre inflation mesurée et inflation perçue. Pierre Lamier en a parlé, il s'est passé quelque chose au moment du passage à l'euro. Ça se mesure subjectivement dans les enquêtes, mais il y a vraiment un divorce entre ce que pensent les Français sur l'évolution des prix depuis le passage à l'euro et ce qui s'est réellement passé. Je pourrais développer, mais je ne veux pas aller plus loin. Et le quatrième point, là encore, Pierre Lamuet en a parlé. Quand bien même nous mesurons bien un pouvoir d'achat moyen, eh bien, une situation individuelle ne se compare pas à une situation moyenne et chaque individu a une évolution propre de son pouvoir d'achat. Donc si on veut tendre la main à l'individu, si l'Institut statistique ou veut tendre la main à l'individu, il faut effectivement qu'il fasse des efforts pour essayer de calculer du pouvoir d'achat par type de ménage. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Je pourrais développer un peu plus avant. Sachez qu'il travaille d'arrache-pied, que c'est un travail de très longue haleine, qu'actuellement, nous avons fait de gros progrès en interne, nous y travaillons depuis un an, et j'ai espoir que de premiers chiffres puissent sortir d'ici 6 mois. Et j'ai seulement espoir. Donc, ça prend beaucoup de temps, je pourrais vous expliquer pourquoi. Merci.
La question de la répartition est évidemment cruciale. Quand le pouvoir d'achat, le revenu disponible augmente de 2%, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens, malgré tout, pour qui ça diminue. Quand le pouvoir d'achat n'augmente plus que de 1%, cette proportion de gens dont le pouvoir d'achat diminue augmente. Hein. Donc on a vraiment un problème de répartition et on peut penser qu'en 2007, Il y a eu un impact fiscal tout de même relativement important de baisse d'impôts qui a été concentré sur une partie assez limitée de la population.
C'est parfait, quoi, ça.
Jacques.
Excusez-moi.
Je m'inquiétais un peu, mais
ça va pas trop, parce que même si je considère que dans la baisse du pouvoir d'achat en 2007, dans le sentiment des Français, il y a sans doute un sentiment auto-prédictif dont certains ne font pas responsabilité, mais enfin, mon devoir de solidarité m'a tout de même à dire que enfin, je ne pense pas dire une grande bêtise statistique, s'agissant de l'effet des mesures fiscales en 2007, elles ont indiscutablement en valeur absolue profité davantage à certains qu'à d'autres, enfin en valeur relative, et donc en effet sur le pouvoir d'achat de ménages qui en valeur relative ont beaucoup profité de ces mesures fiscales, on se trouve sur un certain nombre de salaires qui ne sont pas nécessairement des salaires très élevés.
Alors, très vite réaction là-dessus. Jackie,
je suis vraiment gêné, mais l'ITSI a publié récemment une étude là-dessus. Et donc, l'INSEE a publié une étude sur l'effet en fait, de la réforme de Villepin, l'impôt sur le revenu, et elle a bénéficié effectivement à l'ensemble des ménages, mais pas de la même façon, mais plus sur revenu en
réaction. Non, non, même. Alors, voir l'étude sur INSEE.fr. Vous avez un blog, monsieur Larriton, sur lequel. Hein, monsieur Larriton, est-ce que vous avez un blog sur lequel. Les participants pourraient voir votre réponse argumentée une fois que vous aurez...
Oui, je vais fouiller ça parce que j'avais bien compris que la réforme, pour rester 30 secondes là-dessus, la réforme de la position de Villepin est très irrégulière parce qu'elle est partie d'un principe qui est qu'elle ne devait désavantager personne. Donc ça donne une distribution un peu curieuse. C'est effectivement le cas, elle ne désavantage personne. Elle est de peu d'effet, me semble-t-il. Enfin, c'était mon intuition, mais je n'ai pas vérifié au regard de vos travaux. Je vais faire ce travail-là maintenant. Elle était en valeur, en pourcentage, d'assez peu d'effets sur ce que j'appelle les cadres supérieurs, et elle avantageait beaucoup au-dessus, en pourcentage et beaucoup en valeur absolue, sur les cadres dirigeants, et elle avait un impact sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu, qui est faible par construction en valeur absolue, mais significative en pourcentage. Je reprends votre travail, pardon. Et par la PPE aussi. Je répondrai sur mon blog.
Jackie, puis Jacques, sur cette question du pouvoir d'achat. Et puis, Pierre.
Ce sont quelques réflexions complémentaires à ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas un problème entièrement nouveau. Il a été réactivé dans les dernières années, notamment sous la pression d'une certaine accélération d'inflation qui est maintenant derrière nous. Mais dans les années 70, il y avait un débat déjà très vif sur cette question. Période d'inflation forte, c'était une période où les syndicats en France construisaient leurs propres indices des prix pour concurrencer celui de l'INSEE, et où il y avait une polémique sur le pouvoir d'achat dans une période de croissance encore forte, mais d'inflation vive. Et quand on regarde le contenu de la controverse, elle portait déjà sur un point qu'on retrouve dans les polémiques actuelles, à savoir les effets qualité. Comment, dans un monde où les produits se modifient rapidement, dont la qualité prétendue ou réelle évolue, comment partage-t-on entre les évolutions de volume de consommation et les évolutions de prix? Je crois que le débat aujourd'hui, il est devenu encore plus compliqué à certains égards, parce que ces problèmes d'effets qualité, on les retrouve, sans doute démultipliés parce que l'innovation dans les produits, les services est devenue encore plus vive, avec des pratiques tarifaires selon les conditions de fourniture des services ou des produits qui sont encore plus complexes. Et à ceci se rajoute, un autre aspect qui était, Fabrice n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui est effectivement bien illustré maintenant par les travaux qui ont été menés récemment à la suite des précédents rapports. La notion de revenu de l'ensemble des ménages, c'est une notion de revenu disponible. C'est le terme employé par les statisticiens, pas seulement en France, mais dans les pays qui se sont accordés autour de cette normalisation statistique. Quand on dit au commun des mortels, aux citoyens, voilà votre revenu disponible, on peut réagir au premier degré en disant ce revenu n'est pas aussi disponible que ça. Et effectivement, quand on a fait cet exercice, notamment sous l'impulsion du rapport d'Alain Quinet, inspecteur général des finances l'année dernière, on s'est aperçu que le revenu disponible était de plus en plus contraint par des dépenses considérées comme obligées. Alors évidemment, on rentre là-dedans dans des débats compliqués, parce que comment définir le périmètre des dépenses obligées? On les a définies conventionnellement comme étant les dépenses qui s'inscrivent dans le cadre de contrats peu négociables à court terme. Donc par exemple, la redevance audiovisuelle, on peut considérer que la télévision n'est pas obligatoirement quelque chose de parfaitement indispensable. Néanmoins, quand on prend comme dépenses contraintes le loyer, la télévision, les dépenses de télécommunications aujourd'hui, les assurances, etc., eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, ça a monté de manière considérable dans le budget des ménages au cours des dernières décennies. Ça, c'est sans doute un élément tout à fait important de perception de la part des ménages, qui soulève évidemment, au-delà de la lecture économique, des problèmes de réflexion sociologique sur le degré de libre arbitre dans l'usage des revenus dont on dispose. J'ajouterais, alors, je pense que dans les débats récents sur ces questions, effectivement, il y a tout un dossier qui est présent sur le site de l'INSEE, que je trouve pour ma part bien fait, et qui prend en compte les différents rapports qui ont eu lieu récemment et les innovations auxquelles ils ont incité. Il y a un élément pour moi qui reste encore difficile à voir, parce qu'il soulève effectivement des problèmes de grille de lecture et sans doute de prise en compte des terrains, pour reprendre l'interpellation de Jean-Marc Vittori, la prise en compte d'hétérogénéité nouvelle au sein de la société française. On a l'habitude de lire l'évolution des inégalités, éventuellement les inégalités de pouvoir d'achat, à travers des grilles, par exemple les catégories socio-professionnelles, telles qu'elles se sont forgées au cours de l'histoire statistique. Ce n'est pas des grilles qu'on modifie d'un jour à l'autre. On sait qu'aujourd'hui, il y a des inégalités qui passent par des conditions d'emploi qui ne sont pas réductibles à la catégorie socio-professionnelle. Le fait d'être dans un emploi précaire de telle ou telle façon. Le fait d'être éventuellement une famille monoparentale sur un autre plan. Comment les évolutions de prix, de pouvoir d'achat se croisent-elles avec ces hétérogénéités nouvelles au sein de la société française? Ça reste à mon avis un domaine qui n'est pas facile à explorer, mais qui est tout à fait important aussi pour prendre en compte le fait que certaines évolutions soient ressenties durement par certaines catégories de ménages.
Merci. Jacques.